Je tenais évidemment à d'abord à introduire cette rencontre pour remercier. Comme je disais, j'aime beaucoup remercier les gens. Donc c'est vrai que c'est le mois de l'imaginaire et à cette occasion, on a décidé d'inviter deux auteurs publiés par Actes Sud, Jean-Laurent Del Socorro. Par ActuSF, ça oui. Commence bien. Tu n'as même pas repris.
Comment non, non, parce qu'on va racheter Actes Sud et bientôt, hein, c'est
par,
ça.
Par Actes Sud, donc le premier, c'est Jean-Laurent Del Socorro qui vient de publier Boudica. Et le deuxième auteur, Daniel Martinigol, qui a publié dans la collection Naos Les Abîmes d'Outre-mer, l'intégrale. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation et d'être présents à cette occasion.
Merci à vous.
Évidemment, je tiens également à remercier Jérôme, l'éditeur, qui va participer à l'animation ce soir, et vous, parce que sans vous, il n'y a pas de rencontre possible. Donc merci de vous être déplacés et d'avoir apporté autant de gâteaux, de tartes. Donc merci beaucoup, on pourra se régaler ensuite.
Et on est cinq. Et...
Donc ça va.
C'est un plan parfait. On va peut-être la faire simple, peut-être une petite présentation de chacun de vos titres, et puis on discutera tranquillement ensemble. Je te passe la parole. Daniel, parle-t-il un petit peu de cet après-midi, donc, Les Abîmes d'Outre-mer.
Alors, je parle des abîmes et uniquement des abîmes.
Oui, tu peux parler de toi.
Parce que... Oui, oui, non. Non, mais c'est pas ça, c'est parce que j'ai aussi les gays de l'ombre.
Évidemment.
Alors,
évidemment.
Donc, moi, j'en ai cinq, en fait, chez ActuSF. Et donc... Celui-là, c'est quand même mon bébé chéri, parce que c'est celui avec lequel j'ai eu le Grand Prix de l'Imaginaire il y a quelques années. Et puis c'est un univers que j'aime. Je dis toujours que je suis chez moi, sur Outre-mer. Ça m'a beaucoup plu de construire cet univers. C'est un véritable roman de space opéra. On va de plus en plus loin dans l'espace avec les vaisseaux qui sont donc les abîmes d'outre-mer et leurs pilotes. Et c'est quelque chose qui pour moi correspond bien à ma vision de la science-fiction. C'est-à-dire la science-fiction, c'est fait pour aller loin. Hein, c'est fait pour se dépayser, pour vivre des aventures hors normes, en tout cas hors normes terriennes, si j'ose dire, hein, se dépayser et puis voir autre chose. Et ça m'a beaucoup plu d'écrire ces trois tomes. J'avais au départ pensé qu'il n'y aurait que le premier. Et puis, vu le succès qu'il a eu, l'éditeur m'a demandé si je voulais écrire autre chose pour lui sans penser à une suite des abîmes. C'est moi qui lui ai proposé d'écrire une suite des abîmes. Il a accepté, c'était les éditions Mango à l'époque. Et puis j'ai d'emblée dit, mais si je fais une suite, il y aura deux tomes. C'est-à-dire que ça deviendra une trilogie, parce que j'avais envie de pousser plus loin ma propre exploration du relationnel entre les personnages et puis ces voyages que pouvaient faire ces vaisseaux spatiaux hors normes. Alors voilà, c'est un livre qui me tient vraiment à cœur. J'avais eu la chance extraordinaire pour les trois premiers tomes d'avoir une triple illustration, les trois tableaux de Manchu, qui avaient porté énormément le roman. Et puis pour cette édition, nous avons cherché avec donc toute l'équipe d'ActuSF un autre illustrateur, parce que Manchu, il était pris, et puis de toute façon, c'était une page tournée, si j'ose dire. Pour lui, les abîmes d'outre-mer, c'était terminé. Et nous avons eu la chance de découvrir conjointement Jessica Rossier, qui nous a fait cette belle couverture qui correspond très très bien au roman. Il y a un tout petit détail amusant, c'est que Jessica avait rajouté des flagelles aux abîmes, là, et moi, j'en avais jamais parlé dans le roman, mais on était encore en phase de correction avant le BAT, et du coup, j'ai rajouté dans le roman ce détail qui est né de l'imagination de l'illustratrice, en fait. Et elle était très, très contente de voir qu'il y avait une osmose texte-image, et moi, j'étais contente qu'elle ait enrichi, quelque part, un petit peu la vision que j'avais avec ces petites flagelles, ce mouvement qu'elle avait voulu créer autour du vaisseau. Voilà, comme quoi.
On... Un petit mot sur l'histoire.
Ah, l'histoire, il ne faut, pas trop en dire. Oui, c'est une trilogie sur les médias. En fait, au départ, cette trilogie est née d'un fait divers très particulier qui, il y a longtemps, avait fait que j'avais vu à la télévision, à la suite d'une éruption volcanique en Amérique du Sud, j'avoue que je ne sais plus exactement dans quel pays, il y avait eu une coulée de lave qui avait entraîné une inondation sur un village. Et il y avait une petite fille qui avait le bas du corps qui était pris dans des blocs de béton. Et c'est la première fois que j'ai vu quelque chose qui m'a réellement choqué à la télévision. Il y avait quelqu'un qui était là avec une caméra et qui était en train de filmer plus ou moins l'agonie de cet enfant. Et j'avais... Quand j'étais étudiante à l'université, j'hésitais entre devenir journaliste ou partir vers vraiment la littérature. J'étais très tentée par le journalisme. Et je me suis dit, en voyant ce reportage-là, ce jour-là, si c'est ça le journalisme, non. J'ai bien fait de partir du côté de l'enseignement pour être prof de lettres. Et ça ne m'a jamais quitté. Cette dérive, qui malheureusement s'est bien accentuée avec le temps, des médias voyeuristes, et qu'on en arriverait peut-être un jour à filmer en direct des choses terribles, en fait. Hein. Quand j'ai attaqué la trilogie, j'ai voulu partir sur cette voie-là, montrer qu'il pouvait y avoir des gens qui étaient tellement tentés par le scoop à tout prix qu'ils étaient prêts à aller au-delà de limites qui pour moi sont des limites morales en fait, hein, c'est-à-dire aller jusqu'au déballage voyeuriste. Et donc c'est ce que fait l'héroïne au début, elle filme de la mort en direct de certaines personnes parce que ça commence comme le Titanic dans l'espace en fait, c'est un grand vaisseau spatial qui est en perdition. Et l'héroïne qui s'appelle Sandiane a une caméra super perfectionnée parce qu'on est dans le futur et elle filme en direct les gens qui sont dans cette catastrophe. Et donc le premier tome en fait était sur ces médias voyeuristes, ces journalistes susceptibles de chasser le scoop à tout prix. Le deuxième tome, comme il y a eu 2 ans entre les deux, là vous avez tout en enfilade, c'est ce qui a fait dire aux jeunes tout à l'heure qui parlaient que des fois ça passait un peu vite. Mais oui, mais il y a quand même eu 2 ans de gestation pour l'auteur entre la première et la seconde partie. Et j'avais vu aussi, c'est pareil, à la télé, je suis assez téléphage, hein, j'aime bien regarder les images. Pour moi, il y a les livres d'un côté, enfin, il y a l'écrit d'un côté et les images de l'autre. C'est pour ça que je ne me suis d'ailleurs jamais intéressé à la BD, parce que la BD, ça me plaît pas, parce qu'il y a à la fois l'image et le texte. Moi, il faut qu'il y ait... C'est le cinéma, la télé, etc., d'un côté, et les livres de l'autre, ça a toujours été comme ça. Et là, les émissions de télé-réalité me paraissaient absolument aberrantes aussi. Qu'on puisse laisser des jeunes chanter, je ne sais plus comment ça s'appelait à l'époque, le truc, a cappella en plus, devant une équipe de télévision, et qu'on soit là à les juger en disant « bon, ben toi tu restes, toi tu es éliminé, etc., toi tu t'en vas, toi on te garde avec... » c'était totalement antinomique avec ma conception de l'enseignement et de l'approche des jeunes que moi je poussais pour la réussite, etc. Ça ne me serait jamais venu à l'idée de dire à un jeune « bon, bah, toi tu t'en vas, on t'élimine et toi on te garde, enfin, etc. » Et donc le deuxième tome est sur la télé-réalité. Et puis après avoir quand même dégommé allègrement le monde médiatique avec les scoops voyeuristes et la télé-réalité, je me suis dit « bon, tout compte fait, pourquoi est-ce que tu avais envie d'être journaliste ?» Et moi, je voulais être journaliste pour porter à la connaissance d'autrui éventuellement des nouvelles qui pouvaient être occultées. Donc c'est ce qui se passe dans la fin de la trilogie, alors qu'il y a une nouvelle absolument extraordinaire. Alors là, je ne dévoile pas énormément de choses, mais c'est un contact avec une civilisation extraterrestre. Comme ça dérange pas mal de monde, il y a un effet de blackout total sur cette nouvelle. Et donc mes héros, cette fois, vont se défendre et défendre la vérité pour porter à la connaissance de tous quelque chose que des puissants voudraient bien garder secret. Voilà. Mais c'est vrai que c'est une trilogie dont les médias sont au centre de l'histoire. Voilà. Mais il n'y a pas que ça.
On passe à la fantasy univers celte.
Juste un dernier mot sur les habits. Moi, ce qui m'avait marqué quand on l'a annoncé qu'on le ressortait, quand les gens l'ont vu, c'est qu'il y a plein de, d'auteurs qui ont dit, ben, on a grandi avec les abîmes, en
oui,
fait.
Oui, oui, oui. Mais j'en suis très fier, ça ne me rajeunit pas, mais j'en suis très fier. Oui, c'est, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, ah, qu'est-ce qu'on est content que ça ressorte en intégrale, parce qu'on va pouvoir le relire et puis...
voilà. On le transmettre.
Ouais. Ça, c'est très touchant de voir les lecteurs qui disent, j'ai grandi avec votre...
Alors, Boudica.
Boudica, là, on passe sur de l'historique. Moi, j'utilise beaucoup la matière historique pour mes récits. Boudica, on est au 1er siècle en Angleterre, sur le récit d'une reine celte qui a réellement existé. Boudica, Boadicea, elle a été reprise au 18e, 19e siècle autour de ce nom-là. Et c'est la figure de résistance anglaise aux Romains, en fait, pour faire simple. Comme notre Vercingétorix gaulois, elle va d'abord avoir une période en fait où ils vont plutôt s'en accommoder, puis par la suite dans le récit on va rendre compte qu'elle va tenter de s'affranchir en fait de cette mainmise des Romains, et voilà, avec une certaine violence. C'est par ça d'ailleurs qu'elle est connue, parce qu'en fait les seuls écrits qu'on a réellement d'elle, ce sont ceux des Romains, des vainqueurs, et qu'ils ont elle a bien failli effectivement les éradiquer complètement de l'île. Donc, par rapport à ça, le travail qui était intéressant autour de ça, c'est de dire, on la voit apparaître en fait historiquement sur ses traces à l'âge adulte, mais qui elle a été, comment on devient en fait une personne, comment une personne normale tout d'un coup va se mettre à incarner quand même ce qui a failli être, enfin ce qui a été la résistance, une résistance avec un grand R à un moment donné de l'histoire. Donc là, j'ai travaillé avec un archéologue d'époque. Qui m'a fait valider, invalider un certain nombre d'hypothèses. On n'a encore que des hypothèses sur d'où elle peut venir. Ce qui était... Mais par contre, il m'a aussi validé un certain nombre d'éléments sur qu'est-ce que c'était en l'an 1. Alors, vous, évidemment, vous, j'imagine que vous connaissez tous par cœur. Mais moi, j'avais pas trop d'idées à l'époque encore. Donc, c'est vrai que moi, j'avais besoin de billes. C'est vrai que par rapport à ça, c'était un élément. Et autour de ça, voilà, inventer. Réinventer son histoire jusqu'en fait sa légende, parce qu'aujourd'hui c'est vraiment en Angleterre, c'est une légende, même dans le monde anglo-saxon en général.
Comment vous avez deux héroïnes, comment est-ce que vous les avez construites? Alors, il y a une reine celte d'un côté dont on n'a quasiment pas d'informations, et puis on a une jeune femme journaliste. Comment est-ce que vous avez construit leur personnalité quand vous entrez dans la peau d'un personnage?
Commence parce que pour un auteur homme, je me demande toujours comment il peut rentrer dans un personnage féminin.
Alors c'est toujours délicat parce que en fait la complexité, que ce soit l'écriture d'un personnage féminin ou masculin, la complexité c'est comment je mets en place quelque chose d'un personnage qui n'est pas un stéréotype. On peut utiliser l'archétype, c'est-à-dire les grands traits, mais c'est vrai qu'on est souvent tenté, surtout sur les domaines où on connaît moins, d'aller vite au stéréotype. Alors en plus, quand on est sur un personnage féminin, tomber dans les stéréotypes, ça peut être dramatique sur les représentations qu'on peut avoir. Donc par rapport à ça, j'ai d'abord... Moi, je travaille beaucoup par ce que j'appelle par morceaux. Donc, en fait, j'écris plein de passages de tous les âges du personnage où elle pouvait être, où elle pouvait exister, de sa naissance jusqu'à sa mort. Et ça m'a donné une trame, une ambiance du personnage. Et ensuite, ça, moi, je travaille avec un groupe de relecteurs justement qui me valide ou m'invalide un certain nombre de choses, notamment sur la cohérence du personnage. Là, j'étais à l'inverse, peut-être trop prudent. Ils m'ont dit. C'est une femme vraiment trop pudique. Il faut qu'elle affirme un peu plus sa féminité. C'est vrai que peut-être le défaut d'un auteur masculin, c'est de peur d'en faire trop sur l'aspect féminin. On en fait, entre guillemets, des femmes hommes, voilà, des femmes qui ne s'assument pas. Donc là, du coup, ça a réinjecté une part de relation avec ses filles, d'assumer complètement ses désirs en tant que femme, et ainsi de suite.
Alors, en plus, dans une société celte, plus ouverte que ce qu'on pourrait penser, ou que nos normes aujourd'hui.
Oui, en plus, voilà, il y avait un élément qui était intéressant par rapport à ça, qui était de voir, alors c'était pas aussi flagrant, mais la société romaine qui arrive, c'est quand même patriarcale à 90%, et tout d'un coup, par rapport à une société celte où l'équilibre homme-femme, sans être à 50-50, est pas loin de l'être, c'est vrai qu'il y a aussi ce travail-là qui était intéressant, et du coup, ça a permis d'insister sur l'aspect... je suis une une femme, oui, je peux être reine, oui, je peux être guerrière, oui, je peux assumer plein de choses. Donc je pense que ça a aidé à la construction plutôt fine du personnage.
Alors moi, c'est une grande adolescente, disons, c'est une adolescente. Moi, j'étais très, très effacée quand j'étais ado. Ça donne peut-être pas l'impression maintenant à l'âge adulte, mais j'étais extrêmement timide, je ne me mettais jamais en avant. Je restais discrètement dans un petit coin de la classe, etc. Et donc, là, j'ai fait un personnage féminin qui était l'antithèse complète. C'est-à-dire qui, elle, n'a peur de rien, qui a un sale caractère, qui est plus ou moins antipathique, d'ailleurs, au début du roman, et on se dit... il y a un des personnages qui lui dit que c'est une véritable petite peste, et elle dit, j'en suis fière, quasiment, hein, d'être une peste. C'est mon boulot, je suis journaliste. Oui, d'accord, j'ai envoyé des fibres optiques passer par des serrures pour aller filmer la vie privée des gens, et alors, c'est mon boulot, je suis là pour ça, enfin, etc. Et moi, c'est exactement l'inverse, en fait, de ce que j'étais. Donc, je sais pas, c'est des fouloirs, peut-être, a posteriori, se racheter une jeunesse comportementale différente, mais tout de même elle va évoluer, elle va se ramasser comme tout ado un peu trop sûr de lui, une ou deux belles claques dans la vie, et puis elle va changer en fonction de ça. Mais j'ai eu beaucoup plus de facilité, paradoxalement, à manipuler comme une marionnettiste, si j'ose dire, mes ados masculins. Les jeunes hommes, j'ai jamais eu de problème avec eux. C'est très souvent en alignement, en narration alignée sur mes héros garçons que j'ai construit mes autres romans. Les deux précédents, ça, c'était L'Or Bleu et Les Oubliés de Vulcain. Et dans L'Or Bleu, le personnage de Bruce. Et dans Les Oubliés de Vulcain, le personnage de Charlet, j'ai jamais eu aucun questionnement pour les faire vivre et dérouler leur vie et leur expérience d'ado dans les romans. Elle, j'ai eu un petit peu plus de mal, donc d'emblée, je l'ai faite antipathique, à tel point que même moi, je la trouvais antipathique, quoi. Alors donc, ça m'a amené à la confronter à des réalités de sa vie qui l'ont amené à changer. Et c'est pour ça que, comme le roman se déroule sur 25 ans, elle est ensuite jeune maman dans le deuxième tome, et puis dans le troisième tome, elle se ramasse exactement dans la figure une fille qui fait autant de bêtises qu'elle en faisait quand elle était jeune. Donc on paie ses dettes toujours un jour. Elle a le retour de bâton avec sa propre fille dans la troisième partie du roman. Et ça m'a beaucoup plu de manipuler ces personnages féminins, que ce soit elle ou sa fille. C'était une expérience intéressante que je n'ai pas renouvelée pour l'instant, d'ailleurs. Je n'ai jamais vraiment eu d'autres romans avec un personnage féminin aussi fort que l'est Sandiane ou que l'est Aella à la fin du roman.
C'est drôle parce que sur les deux romans, on se retrouve avec des échéances de temps longues. Sur les deux, il y a l'adolescence. La partie adulte et la partie où elle est... Alors, oui. Les deux ont une fille en plus.
Et puis les deux ont un peu de problème avec leur papa aussi.
Hein.
Ça, si j'ose dire, Sandiane, elle est en conflit complet avec son père qui est finalement lui, le journaliste voyeuriste, chasseur de scoop. Elle suit les traces, elle s'en démarquera à un moment donné. J'ai Boudica au début, il y a un relationnel familial.
D'ailleurs,
elle raconte, sa naissance.
Sans spoiler aucun, parce que c'est l'ouverture du roman. Elle est orpheline de mère, donc effectivement, sa mère meurt en couche. Donc, effectivement, le rapport père-fille. Et voilà, une singularité qui va la suivre pendant tout le roman.
Deux histoires à deux niveaux, c'est-à-dire qu'on a à la fois des enjeux de révolte et des enjeux de construction des personnages, donc révolte contre les Romains, révolte ou remise en cause du monde du journalisme. Comment vous travaillez en tant qu'auteur pour imbriquer les deux, les enjeux personnels et les enjeux publics?
Tu veux y aller?
Je sais pas trop. J'ai beaucoup de mal à expliquer. En fait, moi, je fais des synopsis assez détaillés de mes romans parce que je ne peux pas écrire un livre si je ne sais pas où je vais. J'ai besoin d'avoir la cible. Je savais, par exemple, que les abîmes d'outre-mer se terminait par Sandiane entra dans l'abîme. Je savais que ça serait la dernière phrase du roman. J'avais peut-être même pas écrit les deux premiers chapitres. J'ai besoin de cette cible-là. Je sais où je vais. Bon, après, la flèche peut très bien faire des détours assez fréquents, mais j'ai... Par exemple, j'admire beaucoup l'écriture de Pierre Bordage, j'ai discuté souvent avec lui. Pierre dit que quand il finit un chapitre, il va se coucher le soir, il ne sait même pas ce que le personnage va faire le lendemain. Moi, je suis absolument incapable de m'endormir si ça m'arrive, ce genre de choses. C'est-à-dire que ça me travaille au point que j'ai besoin de savoir ce que je vais faire dans la suite du livre. Alors bon, la théorie veut qu'on dise que ce sont les écrivains structurants qui travaillent un peu comme moi et que les autres seraient plutôt les scripturants ou les littératurants, c'est-à-dire au fur et à mesure, au fil de la plume. Moi, je suis vraiment une structurante et l'évolution du personnage, je la connaissais bien au point que dans le roman, c'est étudié pour que le lecteur, au début, comprenne quelque chose avant elle. Et ça ne peut pas se faire autrement au niveau de l'écriture qu'en sachant où on va. Quoi. Oui, c'est ça. Je me souviens avoir discuté un jour avec le peintre Wojtek Siudma qui a fait des tas et des tas de couvertures de science-fiction. En fait, il ne faisait pas des couvertures, il faisait des tableaux. On choisissait des morceaux de ces tableaux pour faire les couvertures de livres. Et Siudmak, je lui posais la question, je disais, mais ça vient d'où toutes ces belles images? Enfin, c'est très intéressant de demander aussi à un peintre d'où jaillit son inspiration. Il me disait, ça vient du flou. Je dis, oui, mais encore. Et il m'a dit, mais je ne cherche pas trop à savoir ce que c'est que ce flou, parce que si d'un seul coup ça devient net, j'ai peur que mes images soient moins belles, moins percutantes. Et je pense qu'il y a un petit peu ce phénomène-là dans l'écriture aussi, c'est-à-dire que si on savait, il faut qu'on se laisse porter quand même de temps en temps en se disant, bah tiens, je me souviens dans les Oubliés de Vulcain, quand j'ai tué le petit Chara, ce qui fait littéralement pleurer à chaque fois mes jeunes lecteurs, le problème c'est que j'ai pleuré aussi, quoi. En écrivant le bouquin, je me suis dit, mince, mais je ne peux pas le tuer, c'est pas possible. Et là, je me suis dit, mais Daniel, tu écris la science-fiction, t'as qu'à le cloner, voilà. Et donc, c'est la solution, quelquefois. Oui, c'est la solution, quelquefois, de cette littérature-là, enfin, qui nous ouvre des portes, que ce soit SF ou fantasy, vers quelque chose qui ne pourrait pas se faire dans la littérature dite traditionnelle. Et moi, c'est ça qui me plaît aussi dans l'écriture de ces genres de l'imaginaire. C'est que, d'abord, en tant que lectrice, on a des fois, en tant que lecteur, de belles et magnifiques surprises au détour des pages. On se dit, mince, ça, j'avais pas prévu. Ça, c'est un véritable régal. Et puis, en tant qu'auteur, quelque part aussi, on aime aussi surprendre nous-mêmes, hein, je pense. Enfin, c'est un des plaisirs de l'écriture, quand même, de découvrir aussi notre histoire au fur et à mesure, de se dire, bon, allez, il faudra corriger tout ça, il faudra que tout ça soit cohérent, mais on a quelquefois des surprises, on s'auto-surprend.
Ah bah c'est l'essentiel, je pense que sinon je pense que tu n'écris pas. Moi, à l'inverse, j'ai aucun plan par rapport à ça. Mais c'est vrai que pour Boudica non plus, j'en avais aucun, même si du coup, il a fallu que j'alterne avec les recherches, effectivement, pour avoir deux, trois éléments. Sur le lien entre la grande histoire et son histoire personnelle, enfin, sur ces deux éléments-là, c'était plus facile puisque le personnage que je crée, Boudica, enfin que j'utilise, est fait pour répondre à la grande histoire. C'est comment un individu particulier répond à une problématique de la grande histoire, c'est-à-dire tout d'un coup incarne 2000 ans plus tard encore un symbole de révolte aujourd'hui. Donc il y a un peu cet aller-retour déjà qui était plus facilité. Et le deuxième point, moi j'écris je suis essentiellement un auteur de personnages. J'écris pas de en fait, ce que je dis souvent, un livre, c'est un scénario, un décor et des personnages. Les décors, c'est l'historique, donc je vais pas à le faire. Le scénario, c'est l'historique aussi, donc voilà, doublement feignant. Donc, j'ai quand même travaillé un peu les personnages. Et donc, par rapport à ça, ce qui est intéressant, c'est ce double cadre, le cadre de la notion de révolte, donc là, sur la grande idée, on va dire. Et quand on tire le deuxième fil, c'est l'aller-retour entre la construction de son histoire personnelle avec, dans l'idée de cette évolution, parce que d'abord l'arrivée, l'idée du roman, c'est comment on arrive à être insoumis, accepter une insoumission puis une révolte. Mais d'abord, on a été soumis. Donc c'est l'arrivée de cette soumission avec l'arrivée des Romains et comment on vit effectivement ce basculement entre une situation qui était libre et qui ne l'était pas. Donc là, effectivement, quel meilleur point de vue que le point de vue personnel en fait, du personnage pour nous faire pour identifier le lecteur et pour nous faire comprendre ça. Et après, au-delà de ça, c'est voilà, comment après on rattrape la grande histoire. C'est un petit peu un jeu d'équilibre. Je ne me compare pas du tout à ça, mais en ce moment, il y a une série, un roman qui est remonté à la surface, c'est celui de La Servante écarlate. Vous avez certainement peut-être entendu parler ou vu la série. Et c'est ça qui est fort, c'est-à-dire dans un roman, donc c'est un roman de la fin des années 80 de Margaret Atwood, elle définit en fait un univers aux États-Unis où en fait il y a eu un totalitarisme religieux d'un point de vue catholique. Voilà. Et du coup, les femmes sont réduites à rien et l'héroïne est juste là pour être, pour assumer les naissances. Et là aussi, c'est intéressant. C'est-à-dire comment, à travers le destin d'un particulier, elle nous montre l'univers. Et je pense qu'on est dans le même rapport à la construction, alors sur des effets différents. Mais effectivement, on a un personnage qui, en fait, est emblématique de l'histoire et de la société qu'on va mettre en place, qu'on va décrire au lecteur.
C'est un peu ça aussi, Sandiane.
Mais oui, mais moi, j'ai quand même les décors avant. C'est-à-dire que dans mes livres, on va de plus en plus loin dans l'espace. Alors, l'intérêt du space opéra, c'est celui-là aussi, c'est de pouvoir aller de plus en plus loin. Et je m'étais arrêtée à la fin des Oubliés de Vulcain avec une confédération de 30 mondes. Et j'ai eu envie d'élargir un petit peu ça à 100 mondes. Et en créant visuellement dans ma tête une confédération planétaire de 100 mondes, automatiquement, il y avait une diversité des décors, un relationnel entre les humains qui était conditionné par ça, par cet espace occupé par l'humanité. Et je dois dire que dans mes romans précédents, je ne m'étais absolument pas soucié des vaisseaux spatiaux. Alors j'avais bien 30 mondes, etc., mais ils y allaient comme ça, c'était pratique, quoi. Le gamin, il traversait, si, il était dit quand même qu'il avait fait 450 années-lumière en 7 jours, donc ça prouve que ça pulsait pas mal, mais c'était tout, quoi. Je m'étais pas du tout posé la question des vaisseaux. Et en fait, je pense que mes livres, quand on me demande si mes livres se suivent, oui, ils se suivent comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me dis, mince, il y a un manque dans le précédent qu'il va falloir que je comble par le suivant. Et le manque des vaisseaux spatiaux à la fin des Oubliés de Vulcain m'a poussé à partir vers les vaisseaux spatiaux avec les abîmes, qui du coup, comme on n'en parlait pas du tout avant, sont devenus au centre du roman. Et puis bon, ben, sans monde, ça obligeait quand même à aller assez vite d'un endroit à l'autre. Donc je ne crois absolument pas en l'avenir de la machine pour se déplacer dans l'espace. Si on discute vraiment avec les scientifiques pour savoir comment on ira loin dans l'espace, la seule chose actuellement qui nous permettrait d'aller loin dans l'espace, c'est l'énergie nucléaire. Mais c'est tabou complètement, on n'en parle pas, on ne dit pas si on y va avec des moteurs basés sur le nucléaire, on ira loin, etc. Donc c'est le non-dit total sur l'exploration spatiale, ça. Et donc, de toute façon, je suis absolument contre l'hypothèse qu'on puisse aller loin par ce fonctionnement d'énergie. Alors donc, je crois profondément dans le vivant, et donc je suis parti sur l'idée d'un autre système d'occupation de cet espace. Alors j'ai d'abord eu le décor. Après, j'ai mis le scénario s'est construit, et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure avec les marionnettes, en fait. Hein, je me compare très souvent à une marionnettiste, parce qu'une fois que j'ai construit le décor et puis que je suis au-dessus de mon théâtre de marionnettes, j'ai 10 doigts, j'essaie de ne pas faire plus de 10 personnages principaux. C'est tout bête, mais enfin, faut pas en faire trop quand même, hein, parce que sinon le lecteur s'y perd. Et puis avec ces héros là, je vais les faire interagir, et ça va m'amener, mais il me faut des prénoms et des noms assez vite. j'ai besoin de livres. Toi, tu avais le nom tout prêt, toi. T'étais. Ah ben, mais moi, il faut que je les invente. Enfin, oui.
Mais tu sais que c'est drôle, ça, parce que certes, l'héroïne, j'avais le nom, quelques noms historiques. Mais moi, mes noms de personnages jusqu'à très tard, ils s'appellent XXX, XXY, ah ben... XYZ. Ils échangent au dernier moment un peu, quand je sens que le personnage est créé.
Ah oui, marrant, ah non, moi j'ai besoin des prénoms et de leur identité, quasiment d'une fiche d'identité et puis de la filiation assez vite. Quoi. C'est pour ça d'ailleurs qu'à la fin des Abîmes, il y a toute la généalogie des personnages, parce que ça, j'ai besoin de ce genre de choses. On existe par son nom quand même aussi, d'une certaine façon. C'est la première chose qu'on dit à autrui quand on se présente, c'est son nom. Et les personnages... alors donc, c'est mes ficelles à moi, hein, t'en as certainement. Mais moi, je fais toujours une liste des personnages principaux et des personnages secondaires. Au bout d'un moment, quand j'ai quand même bien construit mon histoire, je fais ma double liste et il y a toujours un personnage, je ne sais pas où le mettre. Est-ce que je le mets dans les personnages principaux ou est-ce que je le mets dans les personnages secondaires ? Et c'est celui-là que je tue. Vous avez toutes les recettes là. Hein, mais
c'est. Je meurs parce que tu hésites.
Mais oui. Parce que, mais je peux très bien.
C'est l'hécatombe.
Ah bah des fois oui, je peux oui. Mais en général, si je ne sais moi-même pas où le mettre, ça veut dire qu'il est suffisamment important pour que le lecteur l'ait déjà mémorisé. Et que son absence, sa mort, etc., va perturber le lecteur. Mais s'il pouvait se mettre dans la colonne des personnages secondaires, ça veut dire que sa mort ne va pas m'embêter du tout pour la suite de l'histoire. Alors, donc, c'est purement utilitaire. Hein, mais ce qu'il y a d'amusant, c'est que certains de mes petits lecteurs l'ont parfaitement remarqué, ce truc-là. Et un jeune lecteur, un jour, me dit... on parlait de la première partie, dit dans les abîmes d'outre-mer, il n'y a pas de mort. Alors, je dis, ah bon, t'es sûr ? Ah, il me dit, j'ai lu tout Martinigole, il y a un mort par roman. Il me dit, dans les abîmes d'outre-mer, il n'y en a pas. Alors, je dis, t'es sûr et certain ? Tu es tout à fait sûr de toi, il n'y a pas de mort dans les abîmes d'outre-mer. Ah, il me dit, sûr, il n'y a pas de mort. Je dis, t'as pas de peau, il y en a 950 à la première page. Alors, il me regarde et il me dit... Ah ben je les avais pas vus ceux-là. Alors je lui dis, ben tu vois, c'est le plus beau compliment que tu pouvais me faire, étant donné qu'il y a 950 victimes dans l'accident du vaisseau spatial au début. Tu corrobores exactement ce que je voulais prouver avec ma trilogie, c'est que les médias nous trompent quelque part. C'est-à-dire, quand il y a un mort, on en fait tout un plat aux 20h. S'il y a 950 personnes qui ont disparu à l'autre bout de la planète, on n'en parle pratiquement pas. Et je dis donc, là, tu vois, tu t'es pas rendu compte qu'il y avait tant de victimes dans l'accident du vaisseau spatial. Et je les avais pas vus, c'était la preuve même que j'avais réussi quelque part ce que je tentais de faire dans le bouquin. Et bon, rassurez-vous, il y en a d'autres après. Hein.
Et les 950, tu vas hésiter à les mettre en personnages principaux
Là, je les ai éliminés d'emblée. Ça m'arrangeait bien que ça soit une vraie catastrophe, genre Titanic, tu vois. Alors,
moi c'est marrant parce que j'ai pas du tout le même rapport au personnage. Moi, j'essaie d'en mettre le moins possible. C'est-à-dire, un personnage a une fonction. Si on peut l'enlever, c'est qu'il est inutile au récit, en fait. Et souvent, d'ailleurs, j'ai des relecteurs assez durs. Ils me disent, mais pourquoi doubler un personnage alors qu'un seul personnage peut faire office des deux fonctions à la fois ? Donc je me retrouve plutôt avec un nombre réduit de personnages. Et par contre, moi, la mort d'un personnage est évidente. Quand je vois qu'il n'est là que parce que je l'aime bien et que je le garde sur le récit, c'est que, en fait, il devait mourir bien avant. C'est simple, hein, c'est simple, mais on le voit à la relecture. Je ne sais pas si ça t'arrive,
mais on voit les personnages. On est cruel finalement.
On voit les personnages sur lesquels on est tellement attaché, on ne se rend plus compte que leur utilité ou leur. Enfin, pas leur utilité, mais qu'à un moment, ils doivent mourir. Enfin, objectivement, il y a trop d'invraisemblance ou trop de.
Est-ce que vous pourriez tuer un personnage principal ?
Moi, je l'ai. Alors, je rêvais de le faire, et je l'ai fait à la première ligne de Charlex. Puisque la première, c'est la suite des Oubliés de Vulcain qui se passe 150 ans après. Et donc, la première ligne de Charlex, c'est la balle traversa la capsule de survie, atteignit Charlex à la tête et la tua sur le coup. Alors, beaucoup de mes jeunes lecteurs disent ça, c'est un roman, il y a 8 lus au moins, hein, c'est tranquille, puisque c'est en plus, c'est le titre du bouquin. Et la phrase suivante, c'est « Quand dans un spasme, elle revint à la vie, parce que en fait, on est en science-fiction, elle a un nano-kit à l'intérieur du corps qui lui a réparé tout ce qui avait été blessé par cette balle qui lui a traversé la nuque. Sauf que, ben voilà, il y a quelque chose qui est absolument irréparable actuellement dans le corps humain, même avec les perspectives nanotechnologiques les plus pointues en médecine, c'est la mémoire. Hein. La mémoire humaine est encore quelque chose qu'on ne peut pas réparer, si j'ose dire. Et donc, ben voilà, elle a perdu une partie de sa mémoire. Mais j'ai tenu le pari de tuer mon personnage principal. Bon, après, elle reste... Elle est bien en vie, mais elle est...
C'est un joli barrage. En fait, avec l'effet de mode, en fait, de, entre guillemets, du trône de fer, maintenant, ça fait... J'allais dire, ça fait un copier-coller. Puis la deuxième difficulté, je m'étais posé la question sur d'autres récits. À quel moment c'est pas juste un procédé en fait pour relancer le rythme? C'est-à-dire si on tue un personnage principal, pour moi, il faut que derrière, il y ait dans l'intrigue ou dans le nœud de l'histoire, quelque chose d'assez fort qui le justifie. Si ça reste un procédé, est-ce que ça vaut vraiment la peine de le faire? Si j'arrive à trouver quelque chose, voilà, une histoire assez qui se tient assez pour arriver à ça, oui, avec plaisir.
Dernière question sur les personnages. Est-ce que c'est facile de les quitter? Vous avez... Tu as vécu avec Boudica pendant plusieurs mois. Il y a un moment, il y a le mot fin. Est-ce que c'est facile de passer à autre chose ou de dire, OK, l'histoire est terminée?
Oui, à tel point que j'en oublie le nom des personnages. Enfin, je suis passé à autre chose. Mais oh, oui, j'ai aucun problème par rapport à ça. C'est un objet. J'ai peut-être des troubles de mémoire. J'ai reçu une balle à un moment tirée par Daniel Martin-Nibol. Non, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui ont... Il y a deux choses, je pense, qui n'est pas standard là-dessus. C'est... Il y a des gens qui disent, ah, je ne sais pas quand est-ce qu'il faut arrêter le récit. Moi, je sais qu'à un moment, je le coupe. Voilà, là, c'est la fin. Il y aurait peut-être des choses à reprendre. Des choses... Mais à un moment, la matière, elle est finie. C'est comme quand vous faites une sculpture. Au début, vous pouvez tailler, vous pouvez poncer, vous avez la forme et tout. Mais au bout d'un moment, est-ce que ça sert bien de poncer encore un peu plus et tout? Faites une autre sculpture plutôt que... Donc moi, je sais qu'à un moment, c'est fini. Et quand c'est fini, je suis passé à autre chose. Donc l'objet, il est fini, les personnages, ils sont derrière. Même l'histoire, parfois, je ne me rappelle plus bien. C'est véritablement. Donc, oh oui, c'est aucun problème pour quitter mes personnages.
Moi, je sature au bout d'un moment, en fait. Je les connais trop, je ne sais plus trop comment les manipuler. Et du coup, bon, je les abandonne sans trop de regrets, mais je les suis quand même quelque part... Dans ma tête. C'est pour ça que 2 ans après la première époque des abîmes, je ne pouvais pas repartir au lendemain de la fin de l'histoire. J'ai eu besoin de faire vieillir les personnages et de voir la suite de leur vie. C'est plutôt dans mes séries pour très jeunes que j'ai fait l'expérience de suivre des personnages longtemps. Dans la série Kerry et Meghan, écrite avec Alain Grousset, on a suivi nos personnages sur 9 volumes. À la fin, moi, je saturais un peu, quoi. Surtout quand c'était le principe du Club des 5. Ils étaient toujours en vacances, ils vieillissaient pas. Enfin bon, au bout d'un moment, la cohérence même pour l'auteur, ça devient absurde. C'était d'ailleurs un petit peu absurde aussi pour l'illustrateur qui est Philippe Munch. Il avait fini par les vieillir un peu, lui, au fur et à mesure des dessins dans les différents volumes. Et il y a eu un des dessins où on était limite, où l'héroïne était commencée à avoir pris un physique de presque de jeune femme. On lui a dit, elle a toujours que 14 ans quand même, hein, il va falloir nous la rajeunir un petit peu. Mais c'est vrai que quand c'est au long terme, et le pire de ce que j'ai fait dans ce domaine-là, c'est la série Lumina avec Alain Grousset et Paco Porter, où il y avait 12 tomes. Et au 12e tome, un petit peu marre, quoi. Et tous les trois, hein, parce que Lumina avait non pas un dragon, on avait voulu être un peu originaux, donc elle a un tigre ailé, mais un tigre ailé, ça se repère bien quand même. Je veux dire, un dragon aussi, hein, mais enfin. Et dans le. On se partageait le travail en trois, c'est-à-dire que Alain ou Paco écrivait, on avait les synopsis complètement construits avant. Alain ou Paco écrivait soit l'un, soit l'autre, les quatre premiers et les quatre chapitres suivants. Il m'envoyait les huit chapitres, je recorrigeais le tout et j'ajoutais les deux derniers chapitres et l'épilogue. Et j'ai reçu le tome 9 ou le 8, avec le fait qu'ils avaient garé, si j'ose dire, le tigre ailé dans une forêt au début du bouquin et qu'on ne l'avait jamais revu tout le long du roman. Alors j'ai dit, dites les gars, qu'est-ce qui est devenu Urias là dans l'affaire? Ils m'ont dit, oh merde, on a oublié le tigre. Alors donc, voilà, alors c'est... Voilà, la collaboration à plusieurs. Alors moi, je me suis retapé à réécrire tout le début en ramenant le tigre un petit peu au début du bouquin. Enfin, du début du bouquin. Ah ouais, ouais, c'est ça. Alors donc, il y a quand même un moment... J'admire les auteurs qui écrivent des séries. C'est peut-être pour ça qu'ils tuent ces personnages. Martine, il a peut-être envie d'en voir de nouveau réapparaître, ou etc. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment... On se lasse un peu de manipuler tout le temps les mêmes, et puis d'autant plus en jeunesse, mais bon, c'est le même cadre pour le Trône de Fer, hein. Il se passe pas énormément de temps, en fait, quand on regarde au niveau temporel, c'est pas sur énormément de temps, d'autant plus quand on est obligé de les maintenir dans le même laps de temps, hein. C'est sûr que... Alors, ce qu'il y a d'intéressant à savoir aussi, c'est que le lecteur aussi se lasse des fois. Hein. Sur les séries comme ça, avec de longues séries à 9 enfin, ou 12 volumes comme on a fait, c'est très rare. Il faut vraiment que, surtout pour les jeunes lecteurs, ils soient très accrochés pour aller jusqu'au bout. Quoi. Alors, la lassitude étant de part et d'autre, il y a un moment donné où il faut savoir dire stop et s'arrêter. C'est un petit peu ce que j'ai fait avec les quatre tomes des aventures à Guédelon, donc, où je me voyais mal recommencer encore une aventure, encore une fois pendant les vacances, encore. Et puis au fur et à mesure des quatre épisodes des aventures à Guédelon, les héros mûrissent, ils apprennent des choses, ils se débrouillent de mieux en mieux quand ils vont au XIIIe siècle, etc. Et je ne les voyais pas rester naïfs encore pendant plusieurs épisodes. Donc pour l'instant, les quatre tomes des aventures à Guédelon me semblent faire un ensemble qui ouvre éventuellement à... On laisse toujours une toute petite porte entrouverte en se disant, si l'éditeur me fait un pont d'or, hein, ou si la télévision s'empare du truc. Mais donc, non, en général, au bout d'un moment, on les quitte sans trop de regrets, pour répondre plus vite à ta question.
Est-ce que vous avez des questions?
Pour rebondir sur ça, du coup, quelle est la difficulté à arrêter quand on sent qu'on est lassé et continuer d'un point de vue économique?
Ah ben, c'est l'argent, c'est le nerf de la guerre, mon cher monsieur, hein, ça c'est sûr. Je pense que monsieur Martin, quand il a commencé à voir sa série en tournée par HBO, ça a dû quand même le motiver à chercher des scénars, etc., hein, c'est sûr. Parce que quand on travaille pour l'audiovisuel, on dit qu'on travaille pour un zéro de plus. C'est-à-dire quand vous touchez 2000 euros pour un livre, vous en avez 20 000 pour la télé ou pour le cinéma. Et encore, c'est tout petit. Hein. On est bien plus... Non, mais là, je reste dans les petits. Hein. Je reste dans les petits. Là, c'est... Alors donc, oui, bah, c'est peut-être motivant pour ça. Mais... Et puis, ce qu'il y a surtout, c'est l'audience. Je pense que si on vous réclame des suites, c'est parce que le public est preneur et demande des suites. Donc, quand c'est pour les jeunes, on est content de savoir que des enfants ou des ados ont envie de continuer à lire notre histoire, ça c'est sûr. Et puis, on est content aussi quand on est adulte, enfin, je pense, en tant qu'auteur, de savoir que le public réclame une suite. Mais je pense qu'il faut bien réfléchir aux conséquences, quoi. Il ne faut pas non plus ne voir que l'aspect matériel ou plaisir personnel. Il faut voir aussi, comme le disait Jean-Laurent, il y a un moment donné où ça s'arrête. Quelque part, l'histoire s'arrête. Mais moi, je vais un peu plus loin. J'ai écrit finalement quelque chose qui peut être ce qu'on appelle un spin-off. Après Les Abîmes d'Outre-mer, il y a eu Les Sondeurs des Sables, qui était prévu pour être une trilogie, mais les éditions Hachette m'ont dit, alors que j'étais en train d'écrire le tome 2, « Ah, au fait, Daniel, on a oublié de vous dire, il n'y en aura que deux. » Ah bon ? On n'était pas parti sur une trilogie, mais j'avais pas signé de contrat. Hein. On n'était pas parti sur une trilogie. D'abord, oui, non, mais la collection marche pas. On s'arrêtera à deux. D'ailleurs, on sortira pas le deuxième. Ah, j'ai dit non. J'ai dit, vous sortirez pas le deuxième dans le livre de poche. Vous avez créé une collection science-fiction, fantasy, etc. Vous me laisserez mon deuxième là-dedans. Mais je me suis débrouillé pour que le deuxième fasse un ensemble. Ce qui fait que beaucoup de lecteurs m'ont dit, dites donc, c'est ébouriffant à la fin. Ils sont pas, des choses. Elle dit, oui, c'est pas étonnant. Vous avez le troisième tome dans la dernière partie du deuxième. Alors donc, c'est sûr qu'il se passe des choses. Mais j'étais allé plus loin. C'est-à-dire que je voulais voir ce que ces personnages-là avaient pu faire en allant essaimer plus loin et dans le temps et dans l'espace. Et donc, ce sont des descendants de ceux-là qui sont passés dans un univers parallèle. Parce qu'on ne parle plus de la Terre, etc. Mais c'était... Oui, faire ça, je peux. Ça me plaît d'aller plus loin, d'aller explorer encore plus loin, etc. Mais on est tranquille. Hein, avec tout ce qu'on a trouvé dans l'univers maintenant, il y a de la place. Hein. Alors donc, quand on veut faire du space-op, je me suis perdu l'autre jour dans les filaments galactiques. Je regardais sur Internet ce que c'était que les filaments galactiques, les ensembles de clusters de galaxies, etc. Ben, je peux vous dire que j'ai de l'avenir. Hein. Si d'ici que j'aille jusqu'au bout...
C'est pour ça que tes vaisseaux spatiaux, ils en voient pas mal.
C'est ça qui est génial dans le space-op, en fait. C'est qu'en plus, les scientifiques nous fournissent au fur et à mesure. Ils nous ont découvert des exoplanètes. Après, ils nous ont trouvé des tas de frontières au bout de l'univers. Enfin, c'est sympa. Quoi. Il y a des choses aussi. Ah ben ça, oui.
Ah oui, complètement.
Là, il y a deux révolutions.
Ah oui. Qui
ont été faites en
l'espace
d'un mois.
Oui. Ce qui est très drôle.
Ouais. Qui était un roi,
c'est
une reine. Et une deuxième tombe là qui a été découverte cette semaine avec une dame enveloppée dans un linge et en fait c'est de la soie avec des caractères arabes, notamment Allah a priori.
Et c'est
marrant comme
en ce moment, alors je ne sais pas si c'est des effets tout d'un coup regroupés d'annonces, mais c'est vrai, l'exemple que vous donnez sur les Vikings est flagrant. Souvent, la problématique quand on écrit un roman d'historique, c'est on dit, ah ouais, mais bon, vous tordez un peu l'histoire pour que ça rentre ou ça. Et l'exemple que... Moi, je l'ai eu sur Boudicca, on dit, ah, quand même... Moi, je l'ai eu surtout sur Royaume. Ce qui était drôle, c'est les personnages qui étaient réellement historiques. Je pensais à un personnage qui s'appelle Chrétien Daguerre, qui va être à la tête de la Ligue chrétienne du Sud, va mener des armées, être emprisonné, s'échapper. On m'a dit, ouais, ce personnage... T'as mis quand même beaucoup dedans. C'est typiquement sa bio. Tout ce qu'il a écrit, c'est vrai. C'est souvent, d'ailleurs, le problème, c'est souvent que j'en suis à lisser parfois les personnages historiques, parce qu'en contraste, où je suis beaucoup plus nuancé sur les personnages que j'avance, les personnages historiques ont parfois des vies. Et l'exemple que vous donnez sur la Jarl, donc la chef de clan viking, est significative aussi de ça. Je pense que c'est aussi pour ça que j'ai fait Boudicca, pour dire il y a des personnages historiques féminins qui ne sont pas mis en avant. Il y a plein de gens, j'ouvre rien, hein. Il y a Pénélope Bajeux l'a fait très bien en BD, il y a plein d'auteurs, notamment dans la jeunesse, qui le font pertinemment très bien. Mais c'est des éléments extrêmement importants. Et le fait qu'il y a la série Viking qui sort, dans un des saisons, on met une Jarl, donc une chef. Tous les puristes s'offusquent qu'il n'y a jamais eu de chef viking. Déjà, je ne vois pas où le problème que ça peut poser. Oui, historiquement, peut-être que dans l'histoire, ça n'a pas eu, mais bon, ponctuellement sur des clans, il y a pu y en avoir. Et en plus, pendant l'été dernier, ça a rabaissé tout le monde. Et juste pour l'anecdote aussi, je ne sais pas si vous êtes au courant sur le... vous savez, pour Pompéi, les deux amants qui sont embrassés, ouais. En fait, c'est deux hommes. Ouais, donc ça fait beaucoup parler aussi, parce que voilà, c'était le symbole de l'amour. En fait, c'est deux hommes. Ça reste le symbole de l'amour, mais tous ceux qui l'ont...
tous ceux qui l'avaient
avancé dans l'image hétérosexuelle du genre a vraiment pris un coup. Donc quoi, voilà. L'histoire est souvent plus surprenante que la fiction. Et souvent plus difficile à croire, paradoxalement, quand on l'évoque.
Est-ce que vous avez encore une ou deux questions? profitez-en, Jean-Laurent, il se souvient encore de cette histoire.
Pour 5 minutes.
Pour 5 minutes. Une fois, deux fois, trois fois. On boit ?
Allez. Ah ben voilà. Tranquille, il y a déjà tout
préparé. Merci à tous. Allez, bah...